في أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. طيب alors je vous demande une petite seconde pour répondre. Rapidement, envoyez la réponse. Car c'était une question, apparemment, on me dit il faut répondre vite. Voilà. Voilà, Inch'Allah ta'ala, c'est réglé. Alors, dans notre matière, l'unicité d'Allah, le Tawhid, on se retrouve pour un nouveau cours ce matin. On se retrouve pour un nouveau cours ce matin. Inch'Allah ta'ala, peut-être pas ce matin parce que peut-être dans le prochain cours, demain, Inch'Allah ta'ala, je vous ferai écouter un cours qu'on a fait avec les anciens, hier, dans la matière du tawhid, mais ça traite de l'obligation à tout musulman d'apprendre la religion, l'obligation à tout musulman d'apprendre la religion. Donc Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui on va faire notre cours, parce que si je me souviens bien, on entre dans un chapitre très important. Tout est important dans le tawhid, mais naham. Donc on le fera, Inch'Allah ta'ala, on le fera demain. On le fera demain. Demain, on vous fera écouter ce rappel très 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 important. Taïb. Si j'oublie, mentionnez-moi-le. On a beaucoup de choses, hein. Énormément de choses, donc ça ne peut nous arriver d'oublier. Donc si demain jeudi matin, pour le cours de comportement, ça tombe bien, puisque c'était dans notre cours de comportement, pas tawhid de comportement, on a expliqué l'importance et l'obligation, surtout l'obligation à tout musulman d'apprendre la religion. On a ramené des preuves, on a ramené ça me rappelle un cours très 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 intéressant. Naram. Taïb. Alors, si j'oublie, n'hésitez pas. Parce que c'est pour vous, hein, avant tout. C'est pour vous, donc si j'oublie, ce sera pour vous que ça sera dommage. Ça sera pour vous que ça sera dommage. Parce que c'est une exhortation très 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 profitable. Très profitable. Il y a même des gens qui ont assisté pour vous dire Allah Ibarak, qui sont arabophones, qui connaissent le Coran entièrement, etc. Et qui sont arabophones et qui ont étudié les sciences religieuses et qui sont présents au cours et qui nous ont dit que c'était très profitable. Alors si des gens qui sont déjà arabophones, qui sont enseignants dans le Coran, connaissent le Coran, etc., ils nous disent c'était, on a profité. On a profité vraiment, on a stafid. Alors qu'en est-il des vraiment débutants, hein, on se comprend? Comme quoi. Donc si j'oublie, je vous le redis, demain matin, ce rappel, cette exhortation, n'hésitez pas à m'interpeller pendant le cours, à Oustez, de quelques moyens que vous voulez, hein. l'admin dans votre groupe, le hostess, il a oublié. Ou alors les frères directement, ou celles qui que ça leur cause aucun problème de d'écrire sur le chat. Tenez-moi au courant si j'oublie. Parce que moi, j'oublie. Hein. Je suis comme tout le monde, on est comme tout le monde, ça nous arrive. Et puis, on a peut-être pas abordé ce sujet lorsqu'on a parlé du shaitan. Mais il faut savoir que il y a un fondement. Il y a un fondement chez le shaitan, c'est que un de ses stratagèmes, c'est que pour lui, le plus, on va dire, le plus facile et le plus facile pour lui, ça va être d'attaquer celui qui est au-dessus, au-dessus dans le sens celui qui est un des piliers dans les cours. Donc pour lui, s'il veut faire tomber toute la structure, il va s'attaquer à l'enseignant. Donc lui faire oublier, lui faire. Donc s'il arrive à faire tomber l'enseignant, il fera tomber toute la structure. C'est pour ça que les shayatines, ils s'attaquent beaucoup aux ulama. Ils savent qu'après, c'est toute la communauté qui prend un coup. Et si ça marche pas, ils s'attaquent un par un, à chaque personne, une par une. Mais son but, c'est plus facile, hein. Faire tomber, c'est comme dans la politique ou autre, hein, on fait tomber la tête et c'est tout le parti qui tombe. Wallahu a'lam, hein. Wallahu a'lam. Donc c'est pour ça que, voilà, des fois, Shaitan, il fait des coups, on essaye d'être assez averti, assez, avec l'expérience des années et des années, mais lui, il en a plus d'expérience, hein. Il en a plus que nous. Donc voilà. C'était juste pour vous dire si on a des oublis, si on a même des manquements, ce qui peut arriver, on peut avoir des manquements. On n'est pas à l'abri de manquements, mais l'étudiant qui sait vraiment ce qu'il veut, hein, celui qui sait vraiment ce qu'il veut, l'étudiant ou étudiante, hein, il doit patienter, s'accrocher et passer dessus. C'est-à-dire donner des excuses à l'enseignant. Ne rien prendre au premier degré. Ouais, ça c'est pour moi, ça c'est moi qui ai jugé, ceci, ça c'est tout ça c'est shaitan. Donc il faut être assez ouvert, assez large d'esprit, assez patient et savoir ce qu'on veut. Si on sait ce qu'on veut, on donne des excuses, on patiente, parce qu'on sait que ce qu'on a en retour, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur dans cette dunya, c'est la valeur, elle est inestimable. Donc, il y a une règle dans notre belle religion, il y a une règle qui dit on prend toujours le moindre mal. Même si tu as un professeur, des fois, il peut se tromper, il peut des sauts d'humeur, tout ce que vous voulez. N'importe quoi avec lequel Shaitan, il peut. Il peut essayer de vous titiller. Non, toi, tu sais ce que tu veux. Tu es là pour apprendre. Tu as déjà fait ton constat. Parce que ça, c'est impératif que tu fasses ton constat. C'est normal. Tout le monde est comme ça. Tu as déjà fait ton constat, sinon tu ne serais pas là. Est-ce que l'enseignant, il est compétent ou il n'est pas compétent? Une fois que tu as fait ton constat, il est compétent. On apprend, on staffide, etc. C'est tout ce qui compte. Si des fois il oublie, si des fois il a des manquements, si des fois il est de mauvaise humeur, si des fois n'importe quoi que le shaitan y puisse vous trouver, n'importe quoi, pensez du bien, parce que c'est pour votre plus grand intérêt, c'est de prendre la science. Lui, il est là, il vous donne cette science, il est capable de vous la donner. Khlas, c'est tout ce qui est intéressant. C'est tout. Alors, bien entendu, c'est encore mieux si on a un enseignant, il est gentil, il a de la sagesse, il a de la douceur, etc. Il a une bonne méthodologie, ça, c'est top. Encore mieux. Mais malgré ça, il y aura toujours des manquements. Il y aura toujours des manquements. Moi, je me suis déjà retrouvé avec des gens de science c'est pas ça. C'est pas ça. Et les étudiants savent, hein, il y en a certains, ils sont connus pour le comportement, ils sont froids, ils sont connus. Le Coran, il passe pas. Mais si j'ai une faïda à apprendre ou si j'ai du ilm, de la science à apprendre, je dirais, bah, Tant pis, il est gentil, il n'est pas gentil, je dois prendre cette science. C'est ça mon but, vous comprenez? Et vous posez la question à n'importe quel savant, alors après, il y a des limites, hein. Là, on n'est pas en train de, on dit, on n'est pas en train de parler d'un enseignant, Arsène Chirbilel, gardez, wa alaykoum salam, gardez le bon soupçon. Non. Mais là, attention, on n'est pas en train de parler d'un enseignant qui a un mauvais comportement. Là, les savants disent, comme Cheikh Al-Fawzan, la question lui a été posée, si un enseignant il a un mauvais comportement, on le délaisse. Là, c'est autre chose. La question a été posée à Cheikh Al-Fawzan. En plus, c'était carrément pour un quelqu'un. On a un professeur qui enseigne le Coran et il a un mauvais comportement. Qu'est-ce qu'on doit faire? Cheikh Al-Fawzan leur a dit, vous trouvez, vous le délaissez, vous trouvez un autre. Vous trouvez un autre. Vous voyez? Là, on ne parle pas de ça. Là, on parle de ça peut arriver, il a oublié le professeur, ou il n'était pas bien de bonne humeur aujourd'hui, ou c'est pas comme d'habitude. Des choses comme ça, n'importe quoi. Ça, c'est des wes-wes, wasawis. On ne mélange pas avec quelqu'un, carrément, il a un mauvais comportement. Mauvais comportement, par exemple, c'est connu, hein. Quelqu'un qui insulte les musulmans, quelqu'un qui, quand on lui pose une question, il s'énerve, il crie sur les élèves, je ne sais pas. Vous voyez, le mauvais comportement. Le mauvais comportement. Non. Taïb. Alors, vous voyez, comme souvent, j'ai beaucoup de choses et ça m'arrive souvent. Par exemple, j'oublie où est-ce qu'on était arrivé dans le cours. Ça peut m'arriver. En principe, je mets toujours un marque-page, je fais plein de signes, des ronds, des choses, des traits, pour me rappeler où on était. Mais dans votre cours, depuis le début, c'est un coup du shaitan. J'ai tendance comme on a pris un autre support, c'est pas le même, on a changé de support, j'ai tendance à oublié. Mais alhamdoulillah, je me rappelle le sujet en général, hein. Mais exactement la phrase ou la page où on s'est arrêté, ça peut m'arriver d'oublier ça, faut pas tenir rigueur. Parce que même les ulama, vous avez des savants en plein cours qui vous disent, même des enseignants à l'université de Médine, qui vous disent, alors on en était où la dernière fois? Imaginez-vous que le cheikh, il a 10 cours par jour, il a des révisions, il a des... Il faut savoir qu'il n'y a pas que le cours en question. Il n'y a pas que le cours en question. S'il n'y avait que le cours, d'accord. Mais entre-temps, il voit d'autres élèves, il y a d'autres cours, d'autres instituts. Comme nous, c'est notre cas. On n'a pas que l'institut ici. Naham, nous-mêmes, on prend encore des cours. Hein, on est encore étudiant. On est encore en train d'apprendre. Et voilà. Et voilà pour vous dire. Alors, on avait parlé. Ah oui, Tayyib, Tayyib. Ça y est, c'est revenu. On était dans la biographie du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est bien ça? On était. Sur. Alaykoum salam. On avait parlé des trois fondamentaux. Naham, effectivement. Effectivement. D'accord. Barakallahu fikum. Barakallahu fik, Cheikh Youssouf. Ainsi que notre étudiante qu'on remercie. Tayyip. Alors. Il faut que je recherche. Vous disiez que c'est bien de lire des livres sur la biographie du prophète. D'accord, barakallahu fik. Tayyib, je vais revenir. Faut que je retrouve 2 petites secondes. Hein. Il faut que je retrouve où est-ce que j'ai mis la biographie du prophète. Voilà. خطوة إعراض عن التعليم عن الدين سيبا سا Ça, c'était hier. Alors, où elle est passée, cette biographie? Wallahu musta'an. Alors, donnez-moi 2 petites secondes. Hein. Il faut que je retrouve. Si on la retrouve pas, ça sera pas grave. Ala kulli hal. Parce qu'on avait quand même détaillé une bonne partie. Et c'était juste pour vous, c'est pas le. Dans le sujet du cours, on vous a donné dans la première approche concernant, lorsqu'on a expliqué le troisième fondement, connaître le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme dans la parole de l'auteur, et lorsqu'on te demande qui est ton prophète, on vous avait expliqué qu'il y a les grandes lignes, c'est-à-dire les points principaux de la connaissance du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Si vous connaissez ces points, c'est ce qui est demandé à votre niveau en tant que débutant. Et après, nous, on a voulu rajouter à faire une biographie, c'est pour vous motiver en fait. C'est pour vous motiver, vous, à titre personnel, pour aller lire les biographies, les différentes biographies du prophète, alayhi salatu wa sallam, parce que ça va vous apporter beaucoup dès le début. Dès le début. En tant que débutant ou autre même, hein, c'est une bonne chose. Tu lis la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que des compagnons, et ça va te motiver dès le début, te pousser, te propulser, augmenter la foi, et ça aide vraiment à comprendre le contexte du prophète, alayhi salatu wa sallam, de ses compagnons. Je vous le dis, c'est vraiment important. Alors chacun à son rythme est capable, inshallah ta'ala, on espère de lire, chacun à son rythme, un petit peu aujourd'hui, un petit peu demain. Vous savez, des fois, même moi, ça m'arrivait quand j'avais pas le temps. Je me dis, même lire 10 lignes, aller une page dans un livre, c'est bien. C'est bien, c'est mieux que de ne pas ouvrir le livre. Et voilà, chacun a son rythme. Si tu peux lire une page aujourd'hui, celui qui peut lire, il y a des gens, ils sont capables, attention, hein, une journée, un livre de 100, 150 pages, une journée. Hein. C'est toi, ton rythme, ta motivation. Non. Donc voilà ce qu'on vous conseille. Parce que dans la biographie du prophète, on va avoir accès à la méthodologie dans la dawa. La pratique du prophète et de ses compagnons, la manière d'enseigner, les différents événements, comment ils ont patienté, comment nous, à côté d'eux, on va faire un examen de conscience et on va se dire que ça, c'est automatique, hein, normalement. Quand tu vas lire la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu vas faire un examen de conscience et tu vas dire, subhanallah, mais tout ce qu'ils ont vécu, nous, on baigne dans le coton. Façon de parler, on se comprend. Hein. On baigne dans le coton, c'est pas possible. Et là, ça va déclencher quelque chose chez toi. Une sorte d'ascétisme, une sorte d'humilité, une sorte de volonté. Ça va te motiver. Tu te dis, subhanallah, tu te rends compte, tout ce qu'ils avaient, tout ça et tout, ils ont patienté, On avait parlé des martyrs, les premiers martyrs de l'islam, quitte à être assassinés, ils n'ont pas renié leur Seigneur, alors qu'ils étaient au tout début de l'islam. Au tout début. Ça veut dire, vous imaginez leur foi. Eux, ils n'ont pas fait 10 ans d'enseignement de tawhid ou 20 ans. Dès le début, ils avaient un tawhid qui était tellement fort. Alors que nous, peut-être, ça fait 20 ans, on est dans le tawhid, 30 ans, 10 ans, on étudie, on connaît. Et quelqu'un, il va te torturer. Wallah al-musta'an, tu vas tout renier. Alors qu'eux, ils ont passé les épreuves et les tests avec succès, parce qu'il faut savoir que la plupart des choses qu'ils ont vécues, ce sont des tests, des épreuves, et ils ont patienté. Ils les ont passées avec succès. Les compagnons ont passé les tests, les épreuves avec succès. Est-ce que nous, on passe les... Aujourd'hui, on a plus de mal avec ça. On a plus de mal. Est-ce qu'on passe les épreuves, les... tout ça, tout avec succès? Non. Des fois, on a une toute petite épreuve, on tourne le dos à l'islam et aux musulmans. Subhanallah. Une toute petite épreuve. Quelqu'un, il t'a trahi, t'a volé de l'argent ou je ne sais quoi. Allah, il t'éprouve pour voir. Comme il le dit dans le Coran, va les éprouver, les tester pour voir qui sont les hypocrites et qui sont les véridiques. Et toi, une petite épreuve, ça y est, t'as tourné le dos. J'ai perdu mon travail ou je ne sais quoi. Ça y est, tu tournes le dos à l'islam. C'est que t'es pas véridique au fond de toi-même, c'est que t'es pas sincère. Le véridique, le sincère, il sait très bien au fond de lui-même que tu dois passer par là et si Allah il en a décidé ainsi, il ne fera, si tu passes le test, pardon, tu réussis le test, pour toi, c'est le pardon des péchés, l'élévation d'Allah au Ta'ala, Allah il va t'élever, tu peux gagner le paradis, tu vas être pardonné, tu as tout à gagner. Mais si tu patientes pas, tu as tout à perdre. Donc en réalité, à tourner le dos à Allah, subhanahu wa ta'ala, à l'islam, en réalité, tu as tout à perdre et ça, c'est le jeu du shaitan. Il faut patienter. Allah Ta'ala sache qu'Allah Ta'ala, il ne te chargera pas plus que tu ne peux supporter. C'est Allah Ta'ala qui le dit. On sait qu'Allah, il est véridique. On sait qu'il y a énormément aujourd'hui de musulmans qui sont malades. On le sait. Tout le monde sait. On sait qu'il y a énormément de nos frères, de nos sœurs qui sont malades, qui sont touchés par différents mal. Il y en a, c'est des maladies physiques. Il y en a d'autres, ce sont des maladies occultes. Surtout dans la Jamara en France, on pourrait appeler ça. Alors, à côté du virus corona, leur soi-disant épidémie, là, nous, chez nous, le mal occulte, c'est. On a aussi une pandémie dans la communauté musulmane. Hein. Il faut le dire. Il faut le dire. C'est parce que comme c'est devenu normal, une personne sur trois est atteinte, surtout en France. Hein. Alors on est dans une sorte d'insouciance, une sorte de. Vous rappelez le mot qu'on n'arrive jamais à se rappeler? Le mot en français qu'on n'arrive jamais à se rappeler? Une sorte de... C'est plus qu'une habitude, on est tombé dans une routine. Routine, routine, routine. Allez, on va le marquer ici, là. Routine. Subhanallah, il ne veut jamais rester ce mot. On est tombé dans une sorte de routine. Mais en réalité, il y a énormément parmi nos frères, nos sœurs qui souffrent. Alors nous, on est un peu dans une sorte de routine, dans une sorte d'insouciance, c'est un peu égoïste, mais il faut savoir, parce que ceux qui sont touchés, eux, ils savent comment que ça fait, hein. L'effet que ça fait. On le souhaite à personne, mais eux, ils savent l'effet que ça fait. On a déjà eu des témoignages à l'institut, hein. Il y a des élèves qui ont témoigné, déjà, qui ont témoigné. Donc on les remercie, ils ont témoigné devant les autres élèves, hein. Ils n'ont pas eu honte, voilà, moi je suis touché par ça, ça, ça. Et puis on les aide comme on peut. Alors nous, c'est pas notre domaine, c'est pas notre domaine, mais on connaît un minimum. Lorsqu'on était en France, hein, comme on vous a dit, la France c'est un des fiefs du shaitan, la France c'est une des zones contaminées. Donc forcément, si tu fais de dawa, si t'es imam ou quoi que ce soit, tu vas être confronté à ça. Donc nous, on a été confronté à ça et on nous a déjà demandé, sollicité pour faire des ruqya, etc. Alors je répète, ça n'est pas notre domaine, mais on a déjà aidé des frères, des sœurs sur la ruqya, etc. Les sœurs avec leur mahram, bien entendu. Hein. Bien entendu, c'est une des conditions. Hein. On peut faire ruqya à une femme à condition qu'il y ait son mahram et qu'on la touche pas. Celui qui vous dit, attends, je vais mettre ma main sur ta tête, sur ton ventre, dites-vous que ça, c'est bizarre. Pour une femme, si c'est pas ton mahram, il n'a pas le droit de te toucher. C'est juste une faïda pour vous au passage. Donc pour vous dire, à partir de ce moment-là, On était en train de parler des épreuves et on a dévié sur ceux qui sont malades, parce que c'est quand même une épreuve assez difficile et une des épreuves les plus répandues, ceux qui sont malades. Donc, quand tu es atteint comme ça, il faut te dire que je vais vous donner une faïda et ensuite on va passer au cours. Je vais vous donner une faïda quand même très importante. Si, barakallahu fik, Cheikh Samir, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Barakallahu fik, Cheikh Samir. Alors, je vais vous donner une faïda et peut-être, Inch'Allah, on espère du fond du cœur que ça pourra rassurer, ceux qui sont malades. Quelle que soit leur maladie, hein. Quelle que soit leur maladie. Parce qu'il y a différentes sortes de maladies. Il y a le mal occulte, il y a des gens qui ont des maladies, je ne sais pas, maladies, voilà, maladies que, je ne sais pas, de l'allergie, du cancer, je ne sais pas, tout ce que vous voulez comme maladie. Alors, il faut savoir, moi je l'ai constaté, hein, c'est mon expérience personnelle qui parle. Hein. Bon, il y a qu'Allah, qu'Ar-Rasoul, vous le savez bien. Mais il y a le Coran et la Sunna, la parole des savants. Mais il y a aussi mon expérience, notre expérience qui parle. Je peux vous assurer que nous, on a constaté qu'énormément de gens qui étaient malades, il y a une partie, beaucoup de gens qui sont malades, et en réalité, ça a été un bien pour eux. Alors sur le coup, peut-être qu'on ne va pas avoir cette clairvoyance de se dire, t'as vu, subhanallah, en réalité, c'est un bien pour moi. Mais Inch'Allah ta'ala, on va essayer de vous éclairer. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait qu'une personne est malade. Une personne est touchée par différents mal, quel que soit le mal. Cette personne, peut-être, voire sûrement, que si elle n'aurait pas été malade, elle ne se serait pas rapprochée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette maladie est un tremplin, est une cause que cette personne, elle veut se rapprocher d'Allah. Alors pour plusieurs raisons, parce que le fait de goûter à ce genre de maladie, quel qu'il soit, c'est un rappel. Donc ça te fait te rapprocher d'Allah, première faveur d'Allah. La deuxième, c'est parce que cette maladie, elle va te pousser à te rapprocher d'Allah dans le sens où tu vas chercher, par le rappel d'Allah, le tawhid et autres, la guérison. Parce que tu sais, tu as compris que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut te guérir. Parce que, vous savez, tout ce qui touche, par exemple, on va prendre l'exemple des mal occultes, tout ça. Vous savez que on prend conscience quand on est touché par ça. Alors là, on prend directement conscience encore plus. On a la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, en l'invisible, l'existence des djinns, tout ça, parce que là, là tu peux pas dire non, c'est des waswas, les djinns, ça n'existe pas, la sorcellerie, ça n'existe pas. Allez dire ça à ceux qui sont malades. Ça n'existe pas, vous êtes, entre parenthèses, excusez-moi, vous êtes mytho ou je ne sais quoi. Va dire ça à celui qui est malade. Alors celui qui a procédé à des ruqya, comme nous par exemple, on a déjà fait des ruqya, personne ne pourra nous dire que ça n'existe pas. J'invite les gens qui n'y croient pas à venir à une séance de ruqya. Et on verra quand tu vas sortir si tu as le même. Alors ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais encore une faïda. Un jour, il y a une personne. Il y a une personne. Qui n'était pas forcément. Qui était comme un musulman insouciant, un ami qui ne s'occupe pas de ces choses-là et lui, il croit pas trop. Et un jour, il y a un frère qui connaissait une personne qui était touchée par ça. Et bon, ils étaient venus pour me demander conseil, etc. Et il m'a montré une photo. Il m'a montré hein, sur son portable une photo qui avait été prise où on voyait en reflet. Je vous assure, c'est moi qui vous le dis. Hein. On voyait en reflet d'une personne qui a pris une photo sur un miroir et on voyait derrière en reflet comme une entité satanique, derrière, comme une photo d'un genoune. Je vous assure, je l'ai vu de mes yeux. La personne, le ami dont je vous parle, quand il a vu ça, il a pleuré. Il a pleuré. Vous savez, quelqu'un de tous les jours qui vous dit, mais non, arrête ton char, ça n'existe pas, tout ça. Il a pleuré. Il a dit, oh là là. Je ne sais plus ce que je lui ai dit, mais je lui ai dit, oui, faut pas croire que ce qu'on voit pas n'existe pas. Hein. Attention. El Mouhim. Pour vous dire que, pourquoi je vous ai raconté ça? Pour vous dire que celui qui est touché, lui, il est encore plus dans le, il y croit encore plus, celui qui est touché. Il a vu des choses, il ressent des choses. Donc forcément, lui, la croyance en Allah, la foi en Allah va augmenter. Elle va augmenter. Et ça, Wallahu a'lam, Allah, il a provoqué ça, cette maladie chez toi, ou que tu sois touché par ça, c'est justement pour que tu prennes conscience, pour que tu te rapproches d'Allah. Et regardez, il y a beaucoup de gens qui sont malades, ça a été la cause qu'ils se rapprochent d'Allah, qu'ils cherchent à apprendre, qu'ils cherchent à... Regardez, Wallahi, vous allez dans des instituts, vous allez dans des assises de science, vous allez dans des cours, vous allez trouver des gens qui sont très malades, ils sont très atteints, sorcellerie ou autre. Et Wallah, des gens où tout va bien, ils ont la santé, ils ont l'argent, ils ont tout ce qu'il faut, ça les intéresse même pas de se rapprocher d'Allah. Alors c'est pas dans l'absolu, hein. On n'a pas que des gens malades à l'institut. Et on sait qu'il y a des gens qui sont malades, et on sait qu'également il y a des gens à l'institut. Alors on vise pas une personne particulière, hein. Il y a plusieurs, hein, plus de 4, 5, 6 personnes qui nous ont confié qu'ils étaient atteints, hein, à l'institut. On vise pas une personne particulière, hein. Il y en a, ils ont témoigné devant tous les élèves, hein, comme quoi ils étaient malades. Donc voilà, on vise pas une personne particulière. On sait également qu'il y a des personnes qui sont pas atteintes à l'institut. Mais on sait qu'il y a énormément de personnes où tout va bien et ça les intéresse même pas le rappel d'Allah. Donc en réalité, c'est pas mieux d'avoir une épreuve et de se rapprocher d'Allah. Et Inch'Allah, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu patientes, t'auras le paradis. Où tout va bien, je suis bien, je suis touché par rien du tout, tout va bien. Et je m'occupe pas du rappel d'Allah. Et là, je risque gros. La réponse, elle est catégorique, hein. La réponse, elle est catégorique. Donc, Inch'Allah Ta'ala, il faut être conscient de ces choses-là. Il faut patienter, essayer de se rapprocher d'Allah. Et une des meilleures manières de se rapprocher d'Allah, Subhanahu wa Ta'ala, c'est l'apprentissage du tawhid. C'est l'apprentissage du tawhid. Parce qu'on a déjà expliqué, et justement, il n'y a pas longtemps, Subhanallah, justement, il n'y a pas longtemps, on a eu le témoignage d'une élève en plein cours qui nous a dit, justement, qui est atteint fortement, et qui nous a dit, Walhamdulillah, depuis que je fais les cours de Tawhid, j'ai beaucoup progressé, ça m'a beaucoup aidé, et voilà, ça m'a beaucoup aidé. Walhamdulillah, on espère que ça sera le cas pour tous les élèves, et pour nous-mêmes. Walhamdulillah. Donc maintenant, concernant notre Risala, notre petit ouvrage dans le Tawhid que nous sommes en train d'étudier, nous avons commencé à étudier ici dans notre classe. Nous arrivons, après avoir mentionné les trois fondements en petit résumé, comme vous le savez, après cette petite Risala, ce petit épître qu'on est en train d'étudier, là on va étudier un ouvrage directement après, qui s'intitule Les trois fondements. Et là, ces trois fondements, qui est ton Seigneur, quelle est ta religion et qui est ton prophète, là, on va les étudier en détail. Là, c'est un ouvrage, Les trois fondements. Il y a des savants, il me semble que c'est Cheikh, j'ai oublié quel grand savant, mais il y a un de nos grands savants qui a dit, le livre des trois fondements de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, c'est le livre le plus complet. Le plus complet, hein, qui existe, qui traite des trois questions dans la tombe. C'est pour ça qu'il est connu chez les gens de la Sunna, il est réputé. C'est le livre le plus complet, détaillé, qui traite des trois questions de la tombe. Donc, Inch'Allah, Inch'Allah Ta'ala, ne vous inquiétez pas. Concernant les trois questions dans la tombe, que sont les trois fondements de la religion, hein, qui comprennent toute la religion en général, on va les étudier en détail. Et dans la classe des anciens, Normalement, dans le prochain ou le deuxième cours qui va arriver, nous, on commence les trois fondements. On est en train de terminer Al-Wajibat Al-Mutahattimat. On est au dernier chapitre. Ça y est, on est en train de le terminer. Alors, ça a mis le temps. Ça met le temps, mais on va doucement. On prend les questions, les questions-réponses. On prend notre temps. Nous, on veut des élèves compétents. On veut pas du vite fait, bien fait. Non. Non. On ne fait pas des gâteaux. On ne fait pas du, je ne sais pas, quelque chose de la vie mondaine. Là, c'est la religion. On ne fait pas du vite fait, bien fait. Si quelqu'un n'a pas compris, il peut nous demander. Vous êtes dans un institut. Un institut des gens de la Sunna, c'est. On est là pour vous. On est là pour vous. Faut que vous appreniez, faut que vous. C'est pas. Oui, je suis inscrit comme ça, voilà. Je fais acte de présence. Non. Vous savez que dans la classe des anciens, on est vraiment très fiers et très contents de cette classe. Franchement, j'aurais jamais pensé avoir des bons élèves. On est très contents. Des élèves qui s'investissent. Et de plus en plus, ils s'investissent. Hein. On a des élèves, on a une élève qui. Alors, nous, comme vous le savez, on a fait un PDF. On a fait un PDF qu'on a fait nous-mêmes. On l'a fait nous-mêmes, ce PDF. Donc, en faisant des recherches, hein, on a pris par-ci, par-là, on a réussi à réunir 50 points sur l'importance du tawhid. On a une élève qui nous a mis ça sur PDF. Nous, on n'a pas le temps, etc. Pourtant, c'est une élève, elle est mariée, elle a une vie, elle a des enfants, etc. Elle s'est investie. On a d'autres élèves, qu'Allah les récompense tous. Pour chaque matière, on a des élèves qui retranscrivent chaque cours. On a des élèves qui retranscrivent chaque cours. On a des élèves qui s'investissent à nous aider pour propager le tawhid. Wallah, mashallah. Franchement, ils s'investissent dans les questions-réponses, franchement, on est très content de cette classe. Alors ici, c'est la deuxième classe, c'est le début. On ne peut pas encore porter de jugement, c'est le début. Mais en tout cas, voilà, pour vous dire que l'institut, celui qui veut s'investir, c'est possible dans notre institut et votre institut. Celui qui veut s'investir. Voilà. Celui qui veut rester spectateur, il n'y a aucun souci. On a déjà expliqué qu'à l'institut, il y avait trois formes de présence. Il y avait celui, il n'est pas trop étudiant, tout ça, il veut juste assister à des rappels. Marhaban, vous êtes bienvenue. Même si quelqu'un, il a 70 ans, 60 ans, 80 ans, il veut juste écouter. Marhaban, viens, assis-toi et il n'y a pas de souci. Ensuite, il y a ceux qui veulent s'investir un petit peu, poser des questions, faire les contrôles, etc. Il n'y a pas de souci, vous êtes également le bienvenu. Et la troisième catégorie, écoutez bien, c'est celui qui veut devenir un prêcheur, un vrai étudiant, un grand étudiant. À l'institut, c'est possible. Il peut s'investir. Nous, on a dit que ceux qui voulaient transmettre tout ce qu'ils apprennent à l'institut, alors c'est pas du jour au lendemain. Vous savez bien que c'est pas du jour au lendemain, quelques mois, voire plus une année. On teste, hein, on voit l'étudiant, il est capable, il n'est pas capable, que ce soit étudiant ou étudiante. Si arrive un moment, il veut transmettre, on sera même derrière lui, on le soutiendra. Mais attention, je le redis comme je l'avais redit dans la première classe, c'est pas n'importe qui comme ça, on ne le connaît pas, ça fait un mois qu'on se connaît, non. C'est quelqu'un, il a fait ses preuves à l'institut, etc. Très bon élève, qui comprend bien, qui est capable de transmettre. Inch'Allah ta'ala, dans un premier temps, il n'y a rien qui n'empêche, si tu as bien compris tes cours, on a terminé un livre, tu l'as bien compris, tu vas le transmettre à ta famille. Dans un premier temps, tu vas le transmettre à un petit groupe de frères ou de sœurs que tu invites à la maison. Ça, personne ne te dira que c'est interdit. C'est pas possible. Ça, personne ne te dira que c'est interdit. Là où ça peut poser problème, c'est si tu commences à faire une chaîne YouTube, tu t'investis comme prêcheur. Ça, c'est loin. On vous soutiendra par la suite dans le futur. Faudra prendre des cours, etc. Ça, à la rigueur. Mais dans un premier temps, il n'y a rien qui t'empêche. Si tu as bien compris tes cours, tu prends un petit comité, la maman, la sœur, quelques sœurs ou quelques frères, et tu commences à. C'est comme ça que ça commence. Ça, il n'y a pas d'interdit. Ce que tu as appris, au moment où tu l'as bien compris, tu demandes la permission à Oustad. Voilà, Oustad, qu'en pensez-vous, etc. Si on voit que la personne est capable, Wallah, on la soutiendra. Wallah, on la soutiendra. Nous, c'est notre but, hein, de former des gens. On serait content, hein, que des gens soient formés plus tard et puis qu'ils transmettent. Alors, encore mieux si quelqu'un en parallèle, il apprend l'arabe. L'arabe, le Coran, il apprend en parallèle et puis après, il sera capable plus tard de donner des cours à grande échelle. On serait fiers, hein. Franchement, on serait content. C'est le but, hein. C'est le but. Nous, on ne va pas rester éternellement à donner des cours. Un jour, on va partir. Si on a laissé des gens qui sont capables de reprendre le flambeau, on est très, très, très content. Vous voyez, on n'est pas hautain, on n'est pas méprisant. Voilà, c'est ça la science. C'est ça la science. Déjà, dans un premier temps, si quelqu'un il est capable de transmettre les cours au sein même de sa famille, c'est déjà beaucoup. Comme certaines sœurs, elles donnent des cours à leur mari, ou certains frères, ils donnent des cours à leur sœur, ou vice-versa, via l'institut, il y en a un autre qui a tiré l'autre vers l'institut. Ça, c'est déjà ça, c'est la darwa. Vous faites écouter les cours à la maman, vous faites écouter vos cours à votre maman, il n'y a aucun souci pour ça. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez le faire. Naham. Donc voilà. Voilà. Tayyib. Alors, on va quand même finir par entrer dans notre cours. Surtout multiplier les invocations car Allah aime qu'on l'invoque. Naham Sheikh Samir, effectivement. On avait parlé de l'invocation. C'est attention, hein. L'invocation, c'est un point principal si tu veux réussir. Hein. Abu Youssouf, subhanallah, un malheur qui nous rapproche d'Allah est meilleur qu'un bonheur qui nous fait oublier Allah. Arsène, elle est belle celle-là. On va essayer de la mettre en image, Abu Youssouf, inshallah. On va essayer de la mettre en image, elle est très belle. Elle est très belle cette parole, Cheikh Abu Youssouf. Subhanallah. Naam. Barakallahu fikoum, les frères. Tayyib. Alors ensuite, l'auteur nous dit, dans notre ouvrage, sachez ici, vous êtes, c'est comme une famille, il ne faut pas vous sentir. Alors on l'a toujours dit, vous inquiétez pas, dans les limites du légiféré. Dans les limites du légiféré, vous inquiétez pas, on l'a mis dans le règlement, on respecte les différents genres, sœurs, frères, il n'y a pas d'interaction, donc c'est permis. Les gens ne se contactent pas entre eux, on ne mélange pas tout à l'institut, c'est pour la science, on n'est pas là pour les mariages, les choses, nous on ne mélange pas tout. Comme ça, on part d'un bon esprit et ça reste quand même une famille. Ça reste quand même une famille. Donc ne vous inquiétez pas, l'institut c'est convivial, c'est une famille, on s'entraide. Vous avez un groupe pour ceux qui sont timides, vous pouvez envoyer ceux pour qui ça pose pas de problème. Vous voulez directement poser votre question à l'enseignant, c'est pas haram. On a déjà parlé de ça, c'est pas haram. Vous posez votre question dans les limites du permis, et voilà. Voilà. Vous n'êtes pas dans un institut où tout est fermé. On fait notre cours. On a le droit de faire ça. La personne, l'enseignant, il fait son cours. Après, il appuie sur le bouton. Barakallahu fikoum. On a le droit de faire ça. Mais nous, on veut quelque chose vraiment de convivial. Si quelqu'un il a un problème, il peut poser sa question, etc. Voilà, vous vous sentez bien. Yarni, je suis dans un institut, je me sens bien. Si j'ai un problème, je peux demander, on va m'aider, on va me prendre en charge, comme on l'a déjà fait pour des élèves. Il y a d'autres élèves qui sont très très impliqués. Alors, je vous dis pas ça pour faire de la pub, hein. J'essaye de vous transmettre. Il y a des élèves qui sont très impliqués, qui disent, s'il y a des élèves qui peuvent pas payer leurs cotisations, moi je paye pour eux. Ça a été déjà fait, hein. Il y a un frère et qu'Allah le récompense. Un jour, il y avait une sœur qui a des enfants et qui est toute seule. Elle avait plus les moyens. Il a dit, moi, je paye pour la sœur pour 6 mois. Voilà. Ce sont des exemples que je vous donne, hein. Il y a des gens qui sont impliqués. Il y en a d'autres qui font, par exemple, des dons pour la dawa, c'est-à-dire pour les différents épîtres qu'on est en train de faire. Pour les sortir en vrais petits livres, hein, en vrais petits livres qui seront distribués. Vous savez que ça, c'est pas non plus gratuit. Donc il y a des gens qui participent. Il y a également une sœur, elle a payé pour deux, pour je crois que c'est, on m'a dit là, tout de suite. On me dit qu'il y a une sœur également qui a payé pour deux personnes, deux cotisations d'avance pour si quelqu'un ne peut pas payer ou quoi que ce soit. Nous, je vous assure par Allah que nous, on ne demande rien. Je vous assure. Je vous assure. Le peu qui est demandé, c'est que chacun, voilà, comme vous le savez, il y a une cotisation parce que voilà. Sinon, on ne pourrait pas investir tout notre temps dans un institut, vous le savez bien, on a déjà mis les fatwas comme quoi la majorité des savants disent qu'il n'y a pas de souci avec ça. Je vous assure également, vous pouvez vérifier, on a fait en sorte que ce soit le plus abordable possible. Wallahi, on a fait en sorte que ça soit le plus abordable, le plus abordable financièrement possible. Vous pouvez comparer avec d'autres instituts, etc. On a fait vraiment le maximum pour que ça soit abordable. Et d'ailleurs, il y a des étudiants qui nous ont dit, on a fait la comparaison et franchement, c'est comme donné, quoi. Wallahu alam. Donc voilà, c'était juste un petit... pour vous dire, quoi. Pour vous dire que voilà. Non. Tayyib. Alors, on est arrivé dans notre ouvrage, on va y arriver, inshallah ta'ala. L'auteur nous dit, les fondements de la religion sont basés sur deux règles. Sont basés sur deux règles. Alors ça, c'est important, vous le savez, hein. La première, c'est l'ordre de l'adoration d'Allah seul, sans associé. La première règle fondamentale concernant la religion, mais plus particulièrement dans le tawhid, l'unicité d'Allah, c'est l'adoration, l'ordre de l'adoration d'Allah seul sans associé. C'est le tawhid. Le fondement le plus important dans la religion, il faut savoir que c'est le tawhid. Pas de tawhid, pas de religion. Donc c'est pour ça que c'est vraiment malheureux aujourd'hui qu'il y ait énormément de musulmans, ben, ou qui ne connaissent pas tout court, tout simplement le tawhid, ou alors qui n'apprennent pas le tawhid, qui ont des notions, mais qui n'apprennent pas le tawhid. C'est la base, c'est le fondement de la religion, le tawhid. On peut pas, tu peux pas passer à côté du tawhid, c'est pas possible. Et malheureusement, avec les stratagèmes mis en place par le shaitan, avec énormément aujourd'hui les troubles, les égarements, tout ce qui se passe aujourd'hui, je vous assure qu'il y a des gens qui peuvent passer 10 ans sans avoir entendu parler du tawhid. Un jour, j'ai donné un cours dans une mosquée. Je donnais des cours de tawhid. À la fin du cours, il y a un converti, un frère qui est venu me voir. Il m'a dit « Salam alaikum, est-ce que je peux vous parler ?» Je lui ai dit « Naham, naham, pas de souci. » Et il m'a dit « Subhanallah, ça fait 10 ans que je suis converti. » Et j'ai jamais entendu parler du tawhid de cette manière. Il me dit la grande mosquée de la ville au centre, ils n'ont pas la même méthodologie, ils parlent pas comme ça. Wallahul musta'an. Je pense que ça devait être des frères musulmans ou je ne sais pas. Ils n'insistent pas sur le tawhid. Ils n'insistent pas. C'est pour ça que les gens qui n'ont pas comme fondement dans leur religion, comme fondement, comme base, le tawhid, ben c'est pour ça qu'ils sont, excusez-moi du terme, un peu bancal. Ils sont un peu bancal. Un jour, il va dans tel groupe, un autre jour, il va dans tel groupe. Les innovations, ça ne le dérange pas que la religion, elle soit changée, la religion d'Allah. Plein de choses comme ça. Ça ne va pas le déranger, il ne connaît pas, il ne sait pas. C'est parce que son édifice, il n'est pas fondé, basé sur le tawhid. Sur le tawhid. Et c'est une des raisons pour lesquelles, vous savez, les mécréants, les juifs, les ennemis de l'islam, ils ont peur des gens de la sunna. Même s'ils vont pas le dire. Nous, on a eu des échos. Hein. Nous, on a eu des échos comme quoi il y avait des gens haut placés qui disaient ceux dont ils se méfiaient le plus et ceux dont ils avaient plus peur, c'était les gens de la sunna. Parce que s'il y a vraiment des gens qui appliquent la religion à la lettre, ce sont les gens de la sunna. Donc c'est les plus dangereux pour eux. Les plus dangereux pour la mécréance. Pas les plus dangereux physiquement. Hein. Pas les plus dangereux physiquement. les plus dangereux idéologiquement, parce que ce qu'il y a de plus dangereux pour la mécréance et le polythéisme, c'est le tawhid. C'est le tawhid. En réalité, allez, je vais vous donner deux, parce que peut-être vous posez la question, je vais vous donner deux exemples concrets de paroles authentiques. Alors, vous avez déjà une parole des Juifs qui est connue, où les Juifs disent, les sionistes, hein, ils disent, on n'a pas peur d'une armée de musulmans avec des kalachnikovs. On n'a pas peur des musulmans, d'une armée de musulmans avec des kalachnikovs. On a plus peur d'un savant qui connaît sa religion. Je pense que vous avez compris cette parole, ça veut tout dire. Et deuxièmement, une fois, j'avais eu un écho lorsque j'étais en France. C'était un frère qui avait été convoqué, comme beaucoup de frères, hein, ça c'est quelque chose de normal, qui avait été convoqué. Alors à l'époque c'était DST, maintenant je crois ils ont changé de nom. Ce sont les services secrets français. Où il y avait une personne des services secrets qui avait dit, ceux dont on se méfie le plus, c'est les gens de la Sunna, les salafis. Alors, pourquoi il a dit ça? Il a dit parce que eux, on sait qu'ils suivent la religion à la lettre. Ils veulent revenir au prophète et aux compagnons du prophète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était l'âge d'or de l'islam. C'est à cette époque, l'époque du prophète et des compagnons, que l'islam, elle était la plus forte, le tawhid. Donc, ils se méfient plus de ces gens-là. Parce que les autres, c'est comme, excusez-moi du terme, ils le disent eux-mêmes, hein, islam modéré, islam moderne, islam en accord avec la République, islam. Donc, eux, ils rigolent. Excusez-moi, je me moque pas, on n'est pas en train de dénigrer, mais les kofars, ils ont pas peur d'établir. Les tablirs, ils mangent des cacahuètes, ils rigolent, ils versent du thé, ils racontent des histoires, ils font du polythéisme pour certains, ils vont faire le pèlerinage en Inde, ils font du shirk. Les koufars, ils n'ont pas peur des frères musulmans, même s'ils sont attaqués à eux dernièrement, c'est politique, hein. Mais ils n'ont pas peur des frères musulmans. Les frères musulmans, tout est halal. Alors dites-moi, de qui ils ont peur les... De qui ils ont peur? Ils n'ont pas peur des associateurs, ils leur ont donné une carte pour travailler en France. Maintenant, tu as le droit d'avoir une carte de sorcier. Hajj, je ne sais qui, Hajj, je ne sais qui. Vous comprenez? Alors dites-nous, de qui ils doivent avoir peur, les koffars? Ils ont peur des gens du tawhid. Ils ont peur des gens du tawhid. C'est pas peur dans le sens, oh, ils vont nous assassiner. Ils savent qu'ils sont pacifiques. Mais ils savent que, idéologiquement, ce qui peuvent leur faire plus de mal à leur shaytanerie, c'est le tawhid. Vous comprenez? Alors, il me semble qu'on a des commentaires. Assalamu alaikum, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh Ibrahim. Ah, oustad, peut-on assister à la khutba de n'importe quelle mosquée? Sinon, quels sont les prérequis et limites? Alors, si on va dans une mosquée et on ne connaît pas, on ne sait pas qui fait la khutba, etc., tu penses du bien. Et tu vas, tu t'assis, t'écoutes. Mais au moment où tu auras connaissance d'une certaine mosquée où le prêche, ça critique les gens de la sunna, ça critique les ulama, il dit n'importe quoi, il appelle par exemple à sortir sur les gouverneurs, à critiquer les gouverneurs, à critiquer les ulama, il appelle à certaines innovations. Il y en a certains, ils appellent à de la mécréance, attention, tu vas pas aller à une khutba des chiites. Qui insulte Aïcha, par exemple, etc., qui insulte les compagnons. Non, on n'assiste pas. Si on a connaissance qu'il y a une déviance, on n'assiste pas. On va chercher autre chez les gens de la Sunna. Mais si tu sais pas, tu penses du bien, tu vas t'asseoir, et là tu verras. Si tu constates que c'est correct, etc., ben, il n'y a pas de souci, tu peux assister. Sinon, non. Si tu as les preuves que c'est pas correct, tu n'assistes pas. Non. Alors, j'espère qu'il n'a pas d'autres questions. J'ai vu que ça comme question. Voilà. Wafik barakallah, Cheikh Ibrahim. Cheikh Ibrahim. Hayakallah. Tayyib. Alors, c'est pour cela avec tout ce qu'on vient de vous expliquer, c'est pour cela que le premier fondement, la première règle sur laquelle il faut se baser dans l'islam, si tu veux un bon édifice, c'est comme, je vais vous donner un parallèle, une parabole, c'est comme si tu fais un sport de combat. Si tu n'as pas les bons fondements, les bonnes bases, les bons acquis, les déplacements, bon, la plupart des sports de combat, la base et le fondement, c'est le déplacement. Tous les sports de combat, ils ont même des sports avec des armes, même des sports dans lesquels tu utilises une arme, un sabre ou autre, nunchaku, ce que vous voulez. Il y a une base, un fondement, et cette base, ce fondement, c'est le déplacement, avec les pieds, le mouvement, n'importe lequel, boxe, kung-fu, tout ce que vous voulez. C'est la base, le fondement, c'est le déplacement. Comment tu déplaces les hanches, les pieds, naam. Donc, dans la religion, ton fondement, ton acquis, ta base, c'est le tawhid. Et plus particulièrement ici, on nous dit l'adoration d'Allah seul, sans associé. Donc, à partir de ce petit détail, je pense que vous avez bien, dès le début, saisi c'est quoi le premier fondement, la première base, le premier acquis. C'est adorer Allah seul, sans associé. Alors attention, il y a une nuance. Attention, il y a une nuance. Adorer Allah, c'est pas suffisant. Au risque de vous choquer, hein. Si tu adores Allah, c'est pas suffisant. T'es pas monothéiste. Alors à votre avis, pourquoi? Celui qui adore, il dit, moi j'adore Allah, c'est tout. J'adore Allah. Lui, il ne fait pas partie des gens du tawhid. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Quelqu'un a une petite idée. Alors, Arsène Tirbilel, il faut la pratique déjà. Déjà, c'est une chose. Mais c'est vrai que dans cette nouvelle classe, on ne l'a pas encore étudié. Moi, j'ai voulu vous l'inculquer. Moi, j'ai voulu vous l'inculquer sous forme de questions-réponses. Mais maintenant, je vais vous donner la réponse, Inch'Allah. Alors, on a Cheikh. Il faut concrétiser les trois types de tawhid. Naam, Cheikh Ibrahim. Il faut adorer, nous dit Cheikh Abu Youssouf. Ça a beaucoup d'ado car il y a beaucoup d'adorés. Arsène, Cheikh Youssouf, Naam. Voici la réponse. Si tu adores, si tu dis j'adore Allah, il n'y a rien qui dit que tu n'adores pas. Mashallah. Il faut ajouter seul sans associé. Très bonne réponse. C'est ça la réponse complète. Arsène, on a une étudiante ici qui nous a donné la réponse complète. La réponse complète. Regardez ici. L'auteur, il nous dit l'ordre d'adorer Allah. Seul sans associé. Parce que si tu dis j'adore Allah, il n'y a rien qui dit que tu n'adores pas autre qu'Allah également, que tu n'as pas d'autre divinité en adoration avec Allah. Il n'y a rien qui dit le contraire. Parce que les associateurs, il n'y a pas de différence entre toi et les mushrikines qui disent moi j'adore Allah, mais j'adore Lat, Wal-Uzza, Ubal, ou ça ce sont les anciennes divinités des mushrikines Quraysh, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si tu dis j'adore Allah, il n'y a pas de différence entre toi et les associateurs. Parce que les associateurs aussi, ils vont te dire, bah, on adore Allah aussi. Donc, écoutez bien, c'est un fondement dans le tawhid. S'il vous plaît, maîtrisez bien ce fondement, c'est primordial. Les savants disent, le terme adoration, il est général. Le terme adoration, c'est-à-dire, toute adoration n'est pas forcément du tawhid. Mais tout tawhid, il est forcément une adoration. Alors écoutez, pour concrétiser le tawhid, pour qu'on dise là c'est le tawhid, il faut rajouter j'adore Allah seul sans associé. Là tu viens transformer ton adoration en tawhid. Mais tant que tu mentionnes uniquement l'adoration, l'adoration c'est un terme général. Le bouddhiste, il est en adoration. Celui qui adore Allah et qui adore les djinns ou autres, il est en adoration. Mais si tu dis j'adore Allah seul sans associé, wahdahu la sharika la, là ça change tout. Là c'est le tawhid. Et on félicite les élèves qui ont répondu. On les félicite. Et d'ailleurs, on félicite ceux qui ont bien répondu, on félicite ceux qui ont répondu et qui n'ont pas forcément eu la réponse à 100%. Le principal, c'est de participer. À force de participer, ça va venir. Ça va venir. Et sachez que pour ceux qui veulent faire les contrôles, pour ceux qui veulent faire les contrôles, qui veulent avoir des notes, ça me fait penser, subhanallah, que j'ai oublié de faire les bulletins de la première classe des anciens. Subhanallah, j'ai complètement oublié. Wallah, j'espère qu'ils m'excuseront. En tout cas, juste une info pour vous, que lorsqu'on pose des questions à l'institut et que les élèves donnent des bonnes réponses, on leur donne des points. Pour ceux qui veulent un bulletin et voilà, qui veulent une note, il y a une note de participation, il y a une note de comportement sur un bulletin. Voilà. Naham. Taïb. Donc ça, c'est le premier fondement. L'adoration d'Allah, seul sans associé. Si tu ne rajoutes pas seul sans associé, ce n'est pas le tawhid. Retenez bien, si tu n'ajoutes pas seul sans associé, ce n'est pas le tawhid. Donc, Inch'Allah Ta'ala, comme on a pris beaucoup de temps au début, on a fait un petit conseil, une petite exhortation. On a pris beaucoup de temps en début de cours. C'est pour ça on n'a pas pu rester longtemps sur notre ouvrage, notre Risala ici. Mais Inch'Allah Ta'ala, Inch'Allah Ta'ala, on fera attention dans le prochain cours. On prendra tout le temps du cours pour continuer cette explication sur le tawhid parce que c'est le principal, malgré que tout ce qu'on vous a expliqué en début de cours, c'est très 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 important, hein. C'est une classe qui vient d'ouvrir, donc il y a beaucoup de choses encore qu'on a à dire, des recommandations, des conseils, des éclaircissements, donc c'est pour ça, hein, qu'on est encore à des fois à prendre du temps, mais Inch'Allah Ta'ala. Je pense même que ça a dû faire du bien à certains. On espère, Inch'Allah Ta'ala. En tout cas, on vous dit barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayran. On se donne, Inch'Allah Ta'ala, rendez-vous ce soir pour les élèves du soir. Et on se donne, sinon, rendez-vous demain. Demain matin, naham, demain matin, jeudi. Faites-moi penser, hein, si j'oublie, normalement, on va vous faire écouter ça touche le cours de comportement. Donc, on a fait cette exhortation dans un cours de comportement. On va vous la faire écouter. C'est très, très, très important. Dès le début, ça va vous donner un petit coup de boost dans l'étude de la science. Subhanakallahumma wa ma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته